J'ai refusé totalement cette
Bonjour à tous et bienvenue à ce dernier numéro de Parole aux auditeurs pour cette semaine. Parole aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage sur les grandes questions d'actualité et les préoccupations quotidiennes. Ce vendredi 15 octobre 2010, et nous nous penchons avec vous sur les érosions dans nos milieux. La ville province de Kinshasa a été arrosée le mercredi dernier dans la soirée par une forte pluie qui signe ainsi le début de cette saison. Et par ailleurs, le Centre de recherche géologique et minière a publié récemment la cartographie des érosions dans la ville de Kinshasa. Il ressort de cette cartographie que cette dernière est menacée par près de 300 têtes d'érosion. D'autres villes de la RDC connaissent la même situation. À Tikrit, ce sont plusieurs artères des routes qui sont menacées, et que ce soit à Karagabou-Jumaï ou ailleurs, les érosions menacent les édifices d'intérêt public, les maisons d'habitation ainsi que les accès routiers. Tout cela demande une attention particulière et les mesures concrètes pour prévenir et éradiquer les érosions, et cela fait l'objet des paroles aux auditeurs aujourd'hui. Quel état des lieux faites-vous des érosions dans votre milieu et que proposez-vous pour les prévenir et les éradiquer? Nous recevons dans ce studio le professeur Kapongo Mumbi, Marie-Chantal Lumba, Tinka Bastide, sont à la réalisation de cette émission coordonnée par Nicole Ndakam et la mise en œuvre est assurée par Sylvain Matungu, qui est les auditeurs. Bienvenue à tous.
Par internet, ca@radiookapi.net.
Professeur Kassongo Mumbi, bonjour et bienvenue au studio de Radio Okapi.
Bonjour.
Précisons d'abord, ce que vous enseignez, c'est la...
L'hydrologie.
L'hydrologie,
c'est de dire l'étude des eaux de surface, les pluies, le ruissellement, etc. Ça, c'est l'hydrologie.
Voilà.
L'hydrologie, c'est quand les eaux s'infiltrent dans le sol, dans le sol, ça reste dans le sous-sol. Alors, on étudie leur mouvement, leur volume, leur physique.
Voilà, l'hydrologie et l'hydrogéologie.
C'est ça.
Voilà. Et en plus, vous êtes député national.
Ouais, mais ça n'a rien à voir
avec le thème de ce sujet. Voilà. Nous revenons encore une fois. On s'est entretenu avec vous, je me rappelle bien, le 8 avril de cette année, autour de ce sujet. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que la pluie revient dans la ville de Kinshasa. La situation telle que nous l'avions décrite au mois d'avril et la situation au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que les problèmes demeurent, les problèmes d'érosion dans la ville de Kinshasa et à travers aussi le pays. Mais pour permettre aux auditeurs, bien avant d'aller plus loin dans cette émission, de comprendre la base, pourriez-vous d'abord les aider à comprendre ce qui est à la base d'une érosion? Parce que les gens se plaignent que nous avons des érosions, les routes veulent se casser, mais c'est d'abord qu'est-ce qui est à la base de cela pour permettre aux auditeurs de comprendre?
À la base, il y a le départ d'un sol. Ce n'est pas tous les sols qui partent. Le sol part quand il est arrosé par l'eau de ruissellement. Il faut qu'un sol soit bleu. Donc, sans sol sableux, il n'y a pas d'érosion. Dans le cas, par exemple, de la ville de Lubumbashi, le sol n'est pas sableux, il n'y a pas de phénomène d'érosion. Vous n'allez pas entendre qu'une route a été coupée à Lubumbashi suite à l'érosion. Donc, au départ, il faudrait que le sol soit sableux. Ensuite, il faut qu'il soit pentu, qu'il y ait une pente. Donc, voilà les deux conditions. Il y a d'autres, il faut que cette pente soit dénudée de ces herbes qui les protégeaient. Ça, c'est une autre condition pour qu'il y ait des érosions. Et puis encore, il faut que l'eau soit canalisée à un endroit. Ça, c'est d'autres conditions. Mais au départ, il faut un sol sableux pentu.
Voilà. Et maintenant, les horizons tels qu'on le voit dans, à proximité de lieux d'habitation, ça dit qu'il y a maintenant des facteurs qui favorisent à ce qu'on puisse observer cette situation telle qu'on la voit maintenant, les horizons qui engloutissent les maisons. Et là, au-delà de ce que vous avez donné comme les éléments de base, il y a maintenant des facteurs qui favorisent qu'on arrive à ce qu'on observe aujourd'hui.
Vous avez tout à fait raison. Vous ne trouverez pas des horizons en pleine brousse. Même s'il y a des sols pentus, vous ne trouverez pas des horizons en pleine brousse. Vous n'allez pas trouver des horizons, par exemple, sur le plateau de Bateke, en brousse là-bas. Donc, il faudrait qu'il y ait une action anthropique, l'action de l'homme, malheureusement, qui va dénuder le sol, enlever le sable, les herbes qui protégeaient, les plantes qui protégeaient. À ce moment-là, l'eau se concentre à un endroit et crée les érosions. Alors, c'est ça l'action anthropique, donc l'action des landes, c'est ça qui aggrave, qui est un facteur vraiment qui amorce les érosions.
Et quand on regarde aujourd'hui la situation de la ville de Kinshasa, on se rend compte qu'il y a peut-être il y a 30 ans, on observait cela, on n'observait pas cela. Dans beaucoup de villes aussi, il y a plusieurs années, on n'a pas observé le phénomène tel qu'on le voit aujourd'hui, des grands édifices publics qui ont été engloutis. Il y a beaucoup de villes qui ont perdu ça. À Kinshasa, les maisons d'habitation. Et l'état de ces érosions, qu'est-ce qui est à la base? C'est les gens qui sont allés construire là, les endroits interdits, ce sont les gens qui construisent des maisons qui ne sont pas adaptées au type du sol, où le problème se trouve à quel niveau?
Pour dire tout simplement ce que vous avez dit, les gens qui construisent des choses qu'il ne faut pas. Je crois que c'est là le problème. C'est un problème qu'on ne peut pas résoudre par un seul facteur. C'est une conjugaison de plusieurs facteurs, dont celui dont vous venez de parler en dernier lieu, c'est-à-dire les gens qui construisent à des endroits qu'il ne faut pas. Comme le facteur le plus important, parlons de facteurs institutionnels. C'est-à-dire, avant de construire, il faut l'autorisation de bâtir. L'autorisation de bâtir, il faut un service des géomètres, de cadastral, un plan de la ville. Et ce travail a été fait par les Japonais, la coopération japonaise, la coopération française, et puis avant l'époque coloniale, avant, je crois, en 1958, ce travail a été fait, si nous prenons le cas de la ville de Kinshasa. Toutes ces trois études avaient conclu qu'il ne fallait pas construire sur le colline, donc au sud de la ville. Il fallait construire plutôt vers l'ancien, vers Maluku.
C'est-à-dire que les communes comme Mongakula, une partie des Ngaliemans, en principe, on ne devait pas y construire.
On ne devait pas y construire. Donc, toutes ces trois études, une faite par les Belges, juste avant l'indépendance, une autre faite par les Français, je crois, en 68, une autre faite par les Japonais. Donc, toutes ces trois études ont conseillé que la ville s'étende plutôt vers Maluku. Bon, pour des raisons que j'ignore, l'autorité a continué à l'offrir sur des endroits qui n'est pas le cas. Alors, vous allez donc voir que vous n'aurez pas une érosion à Lingala, vous n'aurez pas une érosion à Barumbu, vous allez avoir des érosions qui, justement, sur les endroits qui étaient interdits. Donc, la déliquescence de l'autorité de l'État a conduit aux gens à construire et à aménager sur des sols dangereux. Ensuite, les méthodes de lutte, c'est toujours sur le plan institutionnel. Les méthodes de lutte contre les érosions, moi, quand je commençais à m'intéresser aux érosions, c'était en 93. Bon, à ce moment-là, je devais étudier l'érosion de Kitokimoshi, les érosions d'Indili et d'autres. À l'époque, il y avait 27 dérosions. Maintenant, vous venez de parler de 300. Donc, ce qui montre que l'extension des érosions dépasse les moyens dont nous disposons. Il y a même la ministre de l'Environnement de la ville qui a parlé de 800 feux. Je crois qu'elle n'est pas très loin de la vérité. Ça dépend de quelle échelle. On peut dire que c'est une tête ou ce n'est pas une tête.
Mm-hmm.
Mais si on va là où vraiment l'érosion commence à faire un petit ravin dans une avenue, si on compte ça comme une tête, ça peut s'aggraver au cours d'une pluie, on peut arriver à déchirer ce que présente la ministre de l'Environnement de la ville.
Voilà.
Même si on reste sur des croissants, donc c'est clair que
la situation
est passée.
Voilà.
Alors, maintenant, moi, là où je trouve encore que l'autorité n'a pas agi comme il faut, c'est de recourir toujours à des méthodes qui ont échoué.
Voilà, donc pour ça, mais permettez, en fait, comme on est encore à l'étape des causes, on pourra revenir sur les méthodes de lutte. Mais tant aussi qu'on permette à quelques auditeurs, comme Hubert qui est à Bukavu, Fabien qui est dans le Bandundu et Mathieu qui est à Kananga, qu'ils puissent aussi prendre la parole et nous allons revenir pour continuer et surtout insister à l'émission d'aujourd'hui sur les méthodes qu'il faut vraiment appliquer pour mettre fin à cette situation. On va donner la parole à Hubert, Fabien et Mathieu après quelques secondes.
Parole aux auditeurs.
Hubert, vous êtes à Bukavu, c'est dans la province du Sud Kivu. Bonjour.
Oui, bonjour.
Nous parlons de ces phénomènes, hein, nous parlons des érosions. Je crois que celle qui est là est décrite à Kananga, ici à Kinshasa, à Kikapa, à Kikwit, vous l'avez suivi tout de suite là avec notre correspondant Fabien Kambizi, c'est qui est là est décrite à Mbujimayi. La situation est presque identique aussi à Bukavu.
Ici c'est à Bukavu. Bien sûr, c'est le dernier temps, nous avons la pluie. Mais je voudrais vous dire que, ici chez nous à Bukavu, les problèmes des érosions, jamais il n'y a eu érosion produite par la pluie.
Mm-hmm.
C'est seulement les érosions qui sont dues et qui sont causées par la mauvaise foi, ou bien, disons, la cupidité des gens qui ont le droit, ou bien le pouvoir de lotir le terrain, qui ne choisissent pas de bons terrains.
Mmh.
Il est aussi sur des terrains très accidentés, surtout que la ville est construite sur des suspentes et est bloquée par des collines.
Mmh.
Alors, quand on lotit sur les collines, vous voyez que les normes urbanistiques ne sont pas respectées, alors les eaux de la pluie causent des ruissellements qui finissent par devenir des érosions.
Mmh.
Ce sont des places spécifiques, par exemple, peut-être que vous avez déjà été à Bukavu, et voir au-dessus de l'Ikeouima, en dessous de l'école technique professionnelle XM, là, il y a une érosion qui a été créée par la population qui avait déboisé pour construire là-bas. Et ce sont des personnes bien connues par tout le monde qui avait livré ce parcours pour la construction.
Mmh.
Bon, dans tous les cas, le cas de Volo 4 d'Alongo, où on appelle Pointoué. C'est la même chose. C'est quand on casse même à Bagira, vers le quartier D.
Voilà. Hubert, Voilà, Hubert, bon, en fait, vous avez décrit la situation, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est fait concrètement à Bukavu? Est-ce que vous avez des actions que vous menez, des ouvrages qui sont amorcés par les autorités? Quelque chose qui s'est fait quand même pour parvenir à arrêter la progression de ces érosions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est fait ou bien, bon, tout le monde regarde, on dit, bien voilà, on a l'outil, les érosions sont là, et on regarde, tout quand même, on fait quelque chose à Bukavu pour éradiquer cela?
Bon, je ne sais pas si vous êtes au courant. La dernière fois, il y a deux Bobounais qui ont démissionné.
Mm-hmm.
C'était à cause de ces histoires. Ils ont été activés par la population qui n'était pas d'accord avec ce qu'elle faisait comme mouvement dans des parties qui sont vraiment accidentées. Mais il faudrait qu'on arrête alors les constructions sur le champ des collines,
mm-hmm.
Surtout qu'on arrête ceux qui délivreront encore des documents autorisant des constructions sur des fentes.
Voilà.
Et j'espère que, avec l'action de la population et de la société civile du Kivu, nous parviendrons un jour à mettre le fin à cela. Mais la vraie solution, c'est de lotir des terrains bien propres pour les constructions et déménager les populations, donc les familles qui sont en danger permanent sur les flancs.
Mmh.
Et les amener là où on produit, parce que ne pas associer ces personnes-là, c'est les tuer lentement mais sûrement.
Voilà, merci Hubert. Votre souci à Bukavu, c'est d'arrêter carrément les lotissements sur les terrains qui sont considérés dangereux, ce que les pense, il faut qu'on arrête carrément les lotissements, sinon le danger va être permanent. Dans le Bandundu, Fabien, vous êtes en ligne, bonjour. Fabien, vous êtes en ligne? On a perdu la ligne de Fabien. À Kananga, c'est Mathieu qui est en ligne. Mathieu, bonjour.
Oui, bonjour, M. Pierrot.
On vous écoute. La situation des érosions à Kananga, on sait qu'il y en a eu au fond. Mais qu'est-ce qui se fait aujourd'hui pour lutter contre cela?
Le problème des érosions dans notre pays, la République démocratique du Congo, doit être pris au sérieux. Pourquoi ne pas même le budgétiser par l'État? Il n'y a aucun secret pour personne, monsieur le journaliste. Dans notre pays, nous avons des provinces tablonnées. À l'exemple des passages sur la ville province de Kinshasa, y compris d'autres coins. Je ne vois pas comment le gouvernement est en train de construire des grandes. Parce que pour construire des routes, sans toutefois prendre des dispositions afin de combattre ce fléau, qui est devenu catastrophique, surtout à chaque saison de pluie. Nous le savons tous, monsieur le journaliste. Si cette responsabilité est entièrement attribuée à l'État, c'est sa conséquence de cause. Il y a les services de l'État tels que l'urbanisme, l'habitat, qui se fixe d'habitrer au.
Et Mathieu l'a complètement l'a perdu, c'est un problème de ligne téléphonique, hein, comme on a perdu Fabien. Merci, on a suivi quand même, lui pense qu'il faudrait de moyens conséquents, hein, il faut un budget spécifique pour la lutte contre les érosions, comme on fait les grands travaux avec les routes, et face à ça, à Bukavu, Hubert pense qu'il faut vraiment du sérieux en ce qui concerne le lotissement. Le professeur, j'avais suivi les deux auditeurs, le plus grand problème qui se pose, c'est de savoir, vous êtes technicien, vous êtes spécialiste de la matière, est-ce que vous rendez compte que dans notre pays, quand on procède au lotissement, parce que c'est là d'abord commence le problème, est-ce que tous ces services de l'État travaillent ensemble, l'environnement, les affaires foncières, et en associant bien sûr les géologues, en associant tous les spécialistes du sol pour savoir où est-ce qu'on peut le tirer, où est-ce qu'on ne peut pas le tirer, ou bien on se réveille le matin, veille, chacun distribue les terrains comme il veut.
Monsieur Lamizi, c'est justement là le problème qui se pose. Moi, ici, je parle comme professeur. Le problème de notre pays est que les études de faisabilité pour aider le plan cadastral à l'outil n'existaient pas. C'est-à-dire, je l'ai toujours dit sur toutes les émissions, je dois encore le redire, c'est qu'on doit construire chaque ville en se basant sur la carte géotechnique de la ville. La carte géotechnique vous dira que cet endroit ici est susceptible de subir des érosions. Cet endroit ici est susceptible de subir des tassements. Il n'y en a pas des endroits comme ça à Kinshasa. Mais il y en a plein à Lubumbashi. C'est-à-dire, vous construisez votre maison, quand c'est de l'argile, ça va se tasser de plus en plus, et puis la maison va s'étendre. Si vous allez à Lubumbashi, vous observez, vous allez voir que 50% des maisons sont fendues. Parce que la carte n'indique pas que c'est une maison, c'est un endroit. Si c'est plus de détachement important, il faudrait donc faire la fondation comme ceci, ou tout simplement ne pas le lotir. Il y a par exemple des endroits où il y a des roches qui caverneuses en dessous, hein. Une maison tout entière peut se perdre si on la met là-dessus, et qu'on a en dessous il y a une caverne. Le phénomène est déjà arrivé à Colossi, une maison a disparu en sous-sol parce qu'il y avait des cavernes en dessous. Comme de telles cartes pour nos villes n'existaient pas. J'ai vu Van Caillé quand même, il faut le dire, il a fait toutes ses cartes pour la ville de Kinshasa. On a une carte géotechnique de la ville de Kinshasa, une carte géologique, une carte hydrologique, hydrologique de la ville de Kinshasa, au CERGM. Mais qui les utilise? Est-ce que l'autorité les utilise dans les lotissements? Je doute fort. Mais d'autres villes, en dehors de cette région, pas de l'ordre de Liège, dans d'autres villes, ces cartes n'existaient pas. Donc, quand on donne de quelqu'un, il va construire par exemple à Colossi et qu'il y ait comme un bougemaille où il y a des roches qui est facilement dissoluble dans la ville d'un bougemaille. Donc quelqu'un de bonne foi peut construire sans savoir qu'en dessous de sa maison il y a une caverne qui est en train de se creuser. Tôt ou tard, la maison peut disparaître.
C'est-à-dire que le grand problème, d'abord, c'est une action en amont auprès de l'État, le service technique, qui doivent d'abord commencer par respecter le principe de l'équipement. Et cela va nous aider à éviter ce qui est les gros moyens qu'il faut mettre pour la lutte. C'est ce qui va nous allons aborder tout de suite après avoir écouté JP qui est à Arou et Kayumba qui est à Kikapa. JP, vous êtes en ligne, bonjour. Et voilà. JP, vous êtes en ligne, ça va?
Ok, je suis en ligne.
Voilà, vous êtes à Arou, en province orientale. Est-ce que la situation à Arou est comme à Bukavu, ou bien là-bas vous avez quand même un sol qui vous permet de ne pas vivre le phénomène d'érosion comme ici à Kinshasa et ailleurs?
Oui, je suis à Kikapa, pas à Arou.
Ah, voilà, c'est Kayumba qui est à Kikapa. Oh, voilà, Kikapa, on sait comment la ville de Kikapa s'est présentée il y a quelques années avec autant d'érosion, il y en a même. On a perdu un grand édifice public qui abritait les bureaux de la poste. Je me rappelle même aussi à une partie du bureau de la DGM. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait à Kikapa, M. Kayumba, pour lutter contre ces érosions?
Merci beaucoup, Thoreau, pour la parole. Moi, je vous dis bien, Thoreau, ici à Kikapa, dans presque toutes les cinq communes qui composent toujours cette ville de Kikapa, il y a toujours des ravins. Pas des petits ravins, mais plutôt des grands ravins.
Mmh.
À chaque fois qu'il y a toujours pluie, il y a toujours des grandissements de ces ravins. Les problèmes, c'est quoi? Les autorités n'ont pas au moins la volonté. Quelque part, il y a les gens qui manifestent leur volonté pour pouvoir au moins éradiquer ces ravins. Venez voir l'État venir au moins s'imposer dans le sens de ne pas peut-être donner un accord, mais plutôt contraindre celui qui a l'initiative de pouvoir au moins éradiquer ces ravins. Moi, j'étais aussi ma surprise quand moi-même j'ai pensé que lors du passage du chef de l'État, Joseph Kabila, on pensait peut-être qu'on pouvait l'amener dans des grands routes pour voir ces grands ravins-là. Eh bien, on était donc surpris de voir les conseils présidentiels prendre des raccourcis. On avait beaucoup regretté. Eh bien, des solutions comme ça, des propositions pour pouvoir au moins éradiquer tous ces ravins.
Mmh.
Moi, je veux seulement dire aux autorités de la ville de Kikapa d'avoir aussi la volonté, si quelqu'un se manifeste pour pouvoir éradiquer ces ravins, il faut que les autorités puissent aussi donner un petit plus pour qu'on puisse au moins éradiquer ces ravins. Je vous dis à Kikapa, il y a toujours des grands ravins là, qui roulent là-bas.
Voilà. Le problème, vous posez le problème de volonté politique, hein, et même quand il y a des initiatives privées pour la lutte contre ces érosions, il faudrait qu'il ressemble quand même un appui des autorités de la ville de Kikapa. Académiste Kakouli, vous êtes en ligne, Kakouli, bonjour.
Bonjour, Péro et Lamèche.
Voilà, vous avez suivi la situation de Kikapa. Kayumba pense que c'est un problème de volonté politique hein, pour lutter efficacement contre ces érosions. Et vous, quel est votre point de vue?
Ok, mon point de vue est le service de l'urbanisme et de l'habitat, pour savoir contrôler les constructions qui se font de manière anarchique, ce qui chez nous, parmi nous.
Mm-hmm.
Il y a des constructions qui se font dans des collines sans être contrôlées. Notre observation est de la part du service public. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de contrôler des constructions qui se font de manière anarchique, ils ont peut-être contrôlé les gens qui façonnent les briques, qui vous a autorisé de façonner des briques dans votre parcelle sans autorisation, qui vous a autorisé de construire, même si ce dernier le font dans de bonnes conditions,
mm-hmm.
Je vais là-bas le contracter au lieu de suivre et de contrôler des constructions qui se font de manière anarchique. Bref, je voulais dire, Pierrot, que les érosions ont comme base des constructions anarchiques que l'autorité de l'État s'y mette quant à ce.
Mm-hmm.
Merci.
Merci Kakouli, vous êtes académiste et au Katanga, on va revenir au professeur, cette fois nous abordons les pistes de solutions, je sais qu'il faut faire hein, pour mettre fin à cela, c'est après quelques secondes.
Parole aux auditeurs.
Le professeur, vous avez suivi les auditeurs, hein. Bon, en fait le problème est le même, construction anarchique, lotissement sans tenir compte de principes et on ne respecte rien pour le faire. Mais maintenant, nous sommes à une étape où le problème est déjà là, le constat est réel, les érosions sont là, à Kinshasa et ailleurs. Et puis aujourd'hui, vous, en tant que professeur, par où peut-on commencer pour parvenir d'abord à prévenir et éradiquer? Par où peut-on commencer?
Monsieur Lamoni, je crois, vous avez dit par où on peut commencer pour prévenir. Bon, j'avais compris qu'on allait tout justement, comme vous avez si bien dit, que la situation est déjà là, qu'est-ce qu'on peut faire?
Voilà, et nous avons déjà la prévention avec la
carte de voilà, je crois que peut-être maintenant il faudrait commencer à le répéter. Lorsque les érosions sont là déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? Je parle de l'hypothèse que les méthodes utilisées aujourd'hui ont montré leurs limites. Rien que pour la ville de Kinshasa, où je crois que l'essentiel de l'argent est déposé et dépensé dans le cadre des érosions, les autres villes de l'intérieur, je crois qu'elles sont quasi abandonnées à elles-mêmes, parce que les érosions, avec les moyens dont dispose aujourd'hui le gouvernement provincial, la ville de Kinshasa, qui joue même des coopérations, ne réussit pas à arrêter les érosions, je vois très mal comment nos provinces peuvent arriver vraiment à arrêter avec leur budget. Donc, partant de l'hypothèse que les méthodes utilisées aujourd'hui ont échoué, c'est-à-dire bétonnées, pour le résumer, il faudrait penser à d'autres moyens. J'ai sorti depuis 1993, j'ai été consulté par l'OVD, par mon bureau d'études, que je suis consulté. Maintenant, hier, j'ai été voir l'érosion de Kindele, que mon bureau d'études suit.
La route chinoise avait
oui, parce que quand il a plu fortement la nuit, j'étais inquiété des travaux qui sont en train d'être faits, si ce n'est pas important. Je suis allé voir. Heureusement, il n'a pas plu de ce côté-là, du côté chinoise, il a plu tout petit peu. Il a eu beaucoup de vent, mais pas beaucoup de pluie. Mm. On est juste en sursis. Bon, donc, depuis tout ce temps, je conseille d'utiliser des méthodes utilisées aussi ailleurs. Hein. Ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? Comme le béton, la canalisation des lois en béton, comme le béton se casse, le béton n'est pas souple, il est remplacé de plus en plus par des tuyaux.
Mm-hmm. Les tuyaux en plastique?
Oui, voilà. On peut résumer de toute façon des tuyaux en plastique. Il est remplacé de plus en plus par des tuyaux qui sont flexibles, qui ont l'avantage d'être flexibles, c'est-à-dire même si l'érosion est enfouie en dessous, les tuyaux se plient juste et continuent à conduire de l'eau qui est à l'intérieur. Ensuite, les tuyaux sont facilement mis en place par les riverains même. Donc, s'ils font des boîtes, ils peuvent les hisser à la main, les uns contre les autres. Donc, c'est un travail facile. Et puis qui est plus durable, qui est utilisé de plus en plus dans le monde. Ça fait depuis 1983. En 1993, j'ai proposé cette méthode, elle n'est pas prise. Dernièrement, j'ai ajouté à cela l'utilisation de la résine. J'ai été montré cette résine consolidant à l'OVD. L'ADG de l'OVD a appelé l'ADT pour que j'expérimente ça là-bas. Ils m'ont donné du sable qui était dans leur parcelle. Nous avons mis la résine dessus. Au bout de quelques secondes, c'était devenu un roc. Ils ont pensé que ça peut-être se dissoudre dans l'eau. Ils ont laissé les morceaux de roc dans l'eau pendant 24 heures. Le lendemain, c'était toujours du roc. Alors, c'est lors de mon dernier voyage à Anvers, en octobre de l'année dernière, pour se trouver que là, la ville de Bruges est attaquée par les érosions. Alors maintenant, elle injecte cette résine dans le sol, qui les
transforme en roc.
Voilà. Alors, cette seule méthode, malgré la démonstration réussie in vitro à l'OVD, il fallait maintenant passer une suite. Jusqu'ici, ça fera bientôt un an que j'attends, ça fait depuis 1993, que je suis étonné et déçu de voir que, malgré à l'agence des grands travaux, où on semble plus perméable à des nouvelles méthodes, où on m'a donné deux fois à exposer ces nouvelles méthodes, mais nulle part on ne les a encore commencées.
Voilà, professeur, il y a un écœur qui est à Kananga, Augustin Kakindou, et Christophe Mouaka, qui est ici à Kinshasa, nous allons le prendre. Mais est-ce que ces méthodes que vous avez présentées, pourquoi on ne les prend pas? Est-ce que c'est parce que ça coûte cher ou c'est un problème d'intérêt, si on peut le dire clairement?
Juste ici, personne n'a jamais demandé un débit. Si on avait demandé un devis, on allait voir si c'est cher ou pas. D'autre part, je pense que c'est plus un problème de culture. C'est-à-dire que nous, les Africains, nous ne sommes pas habitués à une étude de pré-faisabilité ou une étude de faisabilité. C'est pas dans notre culture. Si quelqu'un veut élever des vaches, il va difficilement recourir à un vétérinaire. Si quelqu'un veut faire une ferme, il va difficilement recourir à un agronome. Donc, nous sommes comme ça, c'est culturel. Mm-hmm. On pense que si une région arrive, eh bien, on y va, on commence à travailler. Mm-hmm. Tandis qu'il faudrait qu'elle passe dans notre culture, qu'avant de commencer à travailler sur une région, mm-hmm. il faudrait d'abord une étude solide. Parce que moi, je vois les études que l'on fait pour les érosions, je les trouve un peu simplistes parce que elles ne peuvent pas se faire si on n'a pas de données pluviométriques par minute. Mm-hmm. Parce que l'eau passe par minute. Mmh. Elle passe, elle détruit ou elle ne détruit pas. Mmh. Si vous venez après la pluie, vous ne verrez rien. Si vous êtes là avant la pluie, vous ne verrez rien. Donc, dans tout ce que je connais comme méthode d'analyse des érosions, c'est que le caniveau que vous faites, mmh. va-t-il écouler la quantité d'eau dans le tuyau, va-t-il écouler la quantité d'eau au moment où cette quantité va se présenter. Parce que l'érosion se présente comme ça. Si au moment où cette quantité se présente, que votre ouvrage est sous-dimensionné, mm-hmm. ce qui va passer d'abord, s'il est sous-dimensionné, le béton ou le tuyau sera sous pression importante qui peut le faire céder. Parce qu'il y a un grand volume d'eau qui passe dessus, qui crée une grande pression et un grand volume, mm-hmm. et alors ça peut casser.
Voilà, voilà. Voilà, professeur, je crois que c'est vraiment un problème sérieux. Si ces études manquent, alors on se demande la durabilité des travaux qui sont exécutés et comment on peut parvenir à sortir de cette situation. Mekker, vous êtes le président du club des jeunes ECO de Kananga, au Vitret à Kendo. Christophe Mouaka est chercheur au Centre de recherche zoologique et minière. On va vous donner la parole tout de suite après.
Parole aux auditeurs.
Mekker, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Voilà. À Kananga, qu'est-ce qui doit être fait concrètement? On sait qu'il y a beaucoup d'érosions qui menacent des grands édifices comme la prison centrale, l'hôpital général. On a vu même des paroisses catholiques, des écoles, tout ça, des travaux amorcés, abandonnés depuis des années. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez proposer aujourd'hui pour mettre fin à cela?
Ok, merci, monsieur le journaliste. Nécessairement, à Kananga, il y a quelques travaux qui sont nécessairement entrepris par-ci, par-là, nécessairement, à ces concernant les érosions. Mais nous voyons qu'à force qu'on est entré dans ces travaux-là, nécessairement pour combattre les érosions, mais il y a aussi des érosions telles que, il y a des telles érosions qui continuent à naître au jour le jour. Par exemple, si vous attendez à Katoka, pour les gens qui sont à Katoka, sur la Vénus, qui sont pas en temps, il y a une tête d'érosion qui vient avec une pression qui, aujourd'hui, après quelques temps, ça va commencer déjà à vraiment envahir le parc. Alors, même sur l'avenir, l'avenir du Bata, il y a une érosion qui monte vers l'église des protestants à Katoka 2, et une érosion qui, du moins, a déjà envahi une parcelle. Alors, vous voyez des sorts comme ça nécessairement, est en train de débalancer la situation de la population. Mmh. Alors, c'est pourquoi nous demandons nécessairement que notre société, les zones GD, les corporations des jeunes qui, nécessairement, ont l'envie d'entreprendre ces travaux pour combattre les érosions, qui soient nécessairement financé. S'il y a un financement du moins reconnu pour ces organisations ou ces organismes, vous verrez qu'avec la communauté nécessairement, qui habite des communes par-ci par-là, ils doivent se débattre nécessairement pour combattre nécessairement ces érosions. Alors, c'est le cas qu'on a eu avec une érosion nécessairement qui a ravagé tel et tel. Vous-même nécessairement, vous étiez au courant de ce qui s'est passé. Il y a des travaux qui sont déjà entrepris. Mais on ne refuse pas que nécessairement, les ingénieurs ou bien les gens du domaine qui aujourd'hui sont en train de faire ces travaux-là, qu'ils éloignent la communauté. Si on implique la communauté, c'est-à-dire prendre même les associations des jeunes qui habitent ces contrées, chercher le moment, les gens qui habitent ces contrées-là, pour nécessairement qu'ils fassent aussi leur contribution afin de combattre ces érosions. Et vous verrez que ça va aller trop vite, parce que la communauté nécessairement n'est pas
voilà,
que parcelle, leur parcelle nécessairement soit ravagée ou bien que leur quartier nécessairement soit envahi par ces types d'érosions.
Merci, Necker. Vous pensez qu'il faut l'implication de la communauté, hein, quand on doit amorcer les travaux de lutte contre les érosions, il faut impliquer la population locale, hein, d'une manière ou d'une autre. Augustin, vous êtes à Kindo, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot.
Est-ce qu'à Kindo, quand on amorce par exemple les travaux de lutte contre les érosions, l'expérience, les soucis de Necker est prise en compte? Est-ce qu'on implique la population locale, par exemple, dans la sensibilisation pour savoir ce qu'ils peuvent faire pour qu'on n'arrive pas à ces situations d'érosion? Est-ce que ça se fait comme ça ou bien, c'est comme ailleurs, on n'implique pas la population locale et pourtant c'est la population qui est concernée directement par ces érosions?
Ok, merci monsieur Pierrot. Je commence par vous dire que si vous regardez sur le plan géographique la ville de Kindo en particulier, c'est une ville où on ne peut pas vraiment connaître des érosions.
Mm-hmm.
Mais étant donné qu'il y a de personnes qui ont de mauvaises volontés, entre autres les gens de la division des titres fonciers, qui font des lotissements n'importe où, et à cela, quand ils lotissent, ils sont en train de lotir n'importe où, là où les gens ne peuvent même pas y habiter. Mm-hmm. Alors, le fait qu'il y a des gens qui habitent dans certains endroits, dans certains coins, il arrive des fois qu'il y a maintenant des érosions volontaires. Donc, volontaires, je dis volontaires, pourquoi? Parce que ce sont les gens qui ont construit dans cet endroit, qui ont provoqué qu'il y ait des érosions. Mm-hmm. Mais d'une manière un peu superficielle, peut-être que c'est les quartiers qui se trouvent dans la commune de Mikeleng et les quartiers cités, juste au mot Obeta, où on peut connaître des érosions, ou vers les quartiers spéculotés, vers le collet, on peut connaître des érosions. Mais en général, vraiment, la ville de Kindo, c'est une ville qui ne veut pas avoir comme des érosions.
Mmh.
Étant donné sa forme géographique, c'est vraiment une ville qui est sous les bas plateaux, et on ne peut pas connaître vraiment assez d'érosions à Kindo.
Voilà, mais vous dites qu'il y a quand même des lotissements anarchiques. Et quand vous regardez la cartographie de la ville, est-ce que vous pensez que les gens sont impliqués vraiment dans une forte sensibilisation pour éviter qu'ils connaissent des érosions comme les autres villes du pays?
Bon, étant donné que peut-être il y a beaucoup de gens qui ne voyagent pas, ou bien il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais été ailleurs, mais je vous dirais que les gens ne sont pas vraiment souciés de prévoir les érosions, vu ce qu'ils sont en train de vivre. Même quand il pleut, ils ne se préoccupent même pas de pouvoir aménager là où ils sont en train de vivre. C'est pour dire qu'ils ne sont pas vraiment informés, ou il n'y a pas une vulgarisation d'informations pour qu'ils ne puissent pas construire n'importe où, ou qu'ils puissent prévenir les érosions dans les endroits où ils sont en train de vivre.
Merci Augustin. Vous êtes à Kindo dans la province du Maniema. On revient ici à Kinshasa. Christophe Moka, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes chercheur au Centre de Recherche Géologique et Minière. On se rappelle que vous avez publié dernièrement, rendu public la cartographie de la ville de Kinshasa qui contient les érosions. Et on a parlé de combien? De 390, je crois, bien faire d'érosion, c'est ça?
Oui, à peu près, oui. Donc, il y a 307 grands ravins avec des têtes, ça fait 390 à peu près.
Voilà. Et dans votre centre de recherche, si vous êtes demandé aujourd'hui de proposer des solutions concrètes à ceux qui gèrent les services qui peuvent travailler pour mettre fin à cela, vous pensez qu'il faut procéder comment pour parvenir à sauver la ville de Kinshasa de cette menace?
Ok, d'accord. Parce qu'il y a déjà un problème, là nous allons parler de méthodes curatives.
Uh-huh.
Parce qu'il faut guérir, il y a déjà un problème. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment, il faut dans un premier temps faire en sorte qu'on puisse bloquer les lotissements au niveau des pentes.
Uh-huh.
Parce que c'est ça l'occasion même de l'érosion. Et dire aux gens de bloquer l'alimentation des ravins qui existent. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Les eaux de ruissellement, parce que l'eau ne s'infiltre plus comme c'était en son temps. Maintenant, il y a plus le ruissellement que l'infiltration. Or, si l'eau de pluie ruisselle plus, ça signifie que ça va causer plus de dégâts. D'où, il faut détourner ces eaux pour que ça ne se plonge plus dans ces ravins. Et il faut reboiser les surfaces, éviter de paver même nos parcelles, surtout ceux qui sont dans les zones collinaires. Et si on évite de paver, l'eau va s'infiltrer. À ce moment, on y plante du gazon et d'autres plantes, notamment les bambous de Chine également. Et ça va permettre à ce qu'il y ait l'infiltration et très bien canaliser ces eaux. Si nous faisons tout cela, franchement, monsieur le journaliste, ça c'est la méthode curative. on ne va pas dire que nous allons vraiment éradiquer les ravinements ou l'érosion, non. Nous allons diminuer l'action érosive sur le quartier, notamment qui se trouve dans les zones collinaires.
Voilà, mais au niveau de votre centre, est-ce que ces actions sont vulgarisées auprès de la population? Est-ce que vous travaillez quand même en partenariat avec des structures ou bien tout le monde croise les bras, on regarde et il faut maintenant de gros moyens pour construire hein, quand il y a déjà les dégâts causés par les érosions. Qu'est-ce qui se fait concrètement au niveau de votre centre?
Très bien. Nous sommes, au moment où je te parle, il y a une étude, un projet financé par le Musée royal de l'Afrique centrale de Terre-Virène en Belgique, financé pour cette étude de l'érosion. Évidemment, nous aurons nos résultats finaux à la fin de l'année 2012. Néanmoins, les actions que nous sommes en train de mener, pendant que le résultat final n'est pas encore là, nous collaborons avec l'OVD. Dernièrement, nous étions en Belgique où nous avions analysé tous les échantillons des sols prélevés aux endroits où il y a les érosions. On a vu la résistance des sols, la cohésion, on a vu la granulométrie. Tous ces aspects, nous sommes en train d'équilibrer et nous sensibilisons déjà la population en leur disant la méthode curative la plus simple, c'est de planter du gazon, c'est de planter les bambous de Chine, c'est d'éviter à ce que l'eau puisse ruisseler puisque ça s'invite. Il y a des gens qui ont compris, par exemple, à citer Maman Mobutu, il y a un grand ravin et tout le monde a compris, les gens sont en train de planter du gazon et ils sont en train de canaliser leurs eaux, surtout les eaux de pluie sur des toits, au lieu que ça va en divagation, c'est canalisé et ça va dans le système de drainage prévu. Et avec le temps, quand nous aurons fini tous nos résultats, nous allons présenter ça au gouvernement, étant donné que nous travaillons sous tutelle du ministère de la Recherche. Nous pensons que le directeur général du CERGEN va transmettre ses résultats au ministre et le ministre, à son tour, va faire parvenir à qui de droit pour que nous puissions tenir compte de ça et diminuer dans une certaine mesure les méfaits des érosions dans la ville de Kinshasa.
Merci Christophe Moatia. Nous restons ici à Kinshasa. Mangalibi, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute. Vous avez suivi les propositions de monsieur Christophe Moatia du Centre de recherche géologique. Et hier, il pense qu'il faut sensibiliser les gens à planter le gazon, à planter les bambous de Chine. Ce sont déjà, ça peut déjà aider quand même à réduire ces problèmes d'érosion. Et on vous écoute. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Bon, en fait, moi, mon apport, ça va être ici à Kinshasa, ce que nous constatons d'abord, c'est l'absence des autorités. Le professeur a donné l'exemple c'est une cité, si vous avez son plan, il y a des espaces qu'on avait laissé profiter de la végétation. Mais aujourd'hui, si vous allez là-bas, vous verrez que cet espace-là est loti. Si loti, c'est l'autorité. Je crois aujourd'hui, si nous voulons vraiment éviter les érosions dans la ville de Kinshasa, il faut d'abord qu'il y ait un bon plan d'urbanisation. Vous allez vous rendre compte, aujourd'hui, il y a une cité qui vient de se créer au niveau de Bianda. Dans le passé, il y avait des eucalyptus. Mais si vous allez là aujourd'hui, vous verrez qu'il y a un bureau des affaires foncières. Allez voir comment les gens construisent. Pour vous dire qu'aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, on n'arrive pas à nous mettre des gens qui soient à la hauteur par rapport à leurs responsabilités. Parce que là, ce sont des collines, ce sont des endroits où, même quand vous regardez les documents que les Belges ont laissés, ce sont des endroits qu'on ne devait pas construire. Avant de construire, il faut viabiliser d'abord l'endroit. Mais ce n'est pas ce qu'on dit. Donc, il est grand temps que les autorités, en commençant par la ville elle-même, parce qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement provincial, il y a un ministre des Plans qui est là, qui arrive quand même à dire non à certains projets. Aujourd'hui, nous parlons des érosions. Tu vas te rendre compte d'une chose. Kinshasa n'a plus de la végétation. Qui dit Kinshasa s'est réduit en 20 ans les 60% de sa couverture végétale. Aujourd'hui, vous verrez les mêmes autorités. Dans un coin tel que Bangal, la pépinière, ils ont construit des maisons. Allez voir la configuration de cet endroit-là. Est-ce que nous devons continuer avec des pareilles personnes où il est nommé, pour lui l'essentiel, qu'on voit qu'il est nommé, il est ministre, par exemple, de l'urbanisme et habitat, et qu'il a initié un projet, si ce projet-là ne cadre pas avec l'environnement. Moi, je crois qu'il est grand temps.
Voilà, merci.
On arrive à comprendre qu'il y a des décisions à prendre et qu'il faut mettre des gens qui soient à la hauteur. Que ce soit au niveau des affaires foncières, que ce soit au niveau de l'urbanisme et habitat,
et que la ville province de Kinshasa arrive à présenter un plan. Parce qu'aujourd'hui, on a à dire construire n'importe comment parce que la ville n'a pas de plan.
Voilà. Merci beaucoup Mangalibi, c'est l'inquiétude aussi, hein, je présenté par le professeur depuis le début de cette émission, il faut que les gens repensent vraiment à faire ce qui doit être fait en respectant le principe. On va rapidement à Kananga. Jean, vous êtes en ligne? Jean, vous êtes en ligne à Kananga. On termine cette série avant de prendre le professeur Kassongo, nous terminons avec Pompon Titalikati. Pompon, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur Kéval, bonjour à tous les hôtels de Radio Capi.
Voilà, vous êtes dans le Katanga, je pense que le sol chez vous, il est argileux, il ne présente pas les problèmes d'érosion, c'est ça?
Oui, bon, c'est ça, oui, mais quand même, monsieur Kéval, je vous dis, nous avons une inquiétude, parce que nous voyons aujourd'hui, même quand j'interviens, il y a une pluie qui s'est abattue, qui est en train de s'abattre. Pas déjà, nous remarquons quelques érosions au niveau des différentes avenues.
Vous êtes très inquiet. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir, arrêter tout cela avant le pompon?
Merci beaucoup, M. Pierrot. L'inquiétude que nous présentons beaucoup plus, c'est dans des nouveaux sites, c'est-à-dire les gens de l'urbanisme et habitat, voyons aussi le titre de gazation, le titre de foncier. Les gens ici ne permettent pas à l'État congolais de bien planifier, surtout dans beaucoup de quartiers. Nous voyons, il y a des nouveaux quartiers qui sont créés beaucoup plus. Là où ces agents-là qui sont habilités à bien planifier dans les différents quartiers ne se donnent pas quand même la peine de tracer quelques délaissés aussi des espaces auxquels on peut aménager quand même des routes. Il n'y a aucun plan vraiment de l'urbanisme ou de quoi.
C'est le grand problème presque dans toutes les villes. Hein. On construit sans tenir compte du plan, sans tenir compte du respect de l'environnement. Merci beaucoup, Pompon, Delicati. Jean, maintenant, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour, Pierrot et Lamine.
Vous êtes à Kananga. Terminons cette série des auditeurs avec vous. On a suivi déjà deux, trois auditeurs des Kananga qui se sont inquiétés, qui ont pensé qu'il faut des travaux de grande envergure pour sauver la ville des menaces et ses érosions. Au-delà de tout ce qu'ils ont proposé, qu'est-ce que vous pensez encore de plus, Jean?
D'abord, je vous rassure qu'ils ont raison, Pierrot. Kananga, je suis en train de voir cette ville se transformer en un désert d'ici à 2020. Donc, il y a des érosions partout. L'USP Kananga, qui est un grand bâtiment de la ville, est menacé. La prison centrale, menacée. L'usine de l'Unibra ou la Bracongo, menacée. Pour ne citer que ces sites-là. Alors, moi, je suis en train de trouver que, ici, chez nous, d'une part, donc, il y a la responsabilité, d'une part, des autorités, d'autre part, de la population. De la population, comment? Vous trouverez, quelque part, avec des pluies de ces derniers temps, des pluies du gel, il y a déjà un ravin, quelqu'un là, calme, il attend que les cinq chantiers soient appliqués, n'est-ce pas, par le gouvernement. Alors que celui qui est perdant, donc on est en train d'être menacé pour être englouti par un ravin, mais il ne fait absolument rien, aucun effort. D'où moi, je suis en train de suggérer ceci que la société civile puisse peut-être organiser des séances de sensibilisation des masses. En rapport avec la lutte, ou bien dans le cadre de la lutte anti-érosive. À part ça, du côté gouvernement, moi, je suis en train de me tourner, donc, sur estomaquer du fait que, vous trouverez le gouvernement et l'État en train d'octroyer des parcelles dans certains, ou bien sur certains sites stratégiques où on ne peut pas construire et on ne passe même pas à la canalisation plutôt d'eau. C'est le plus grand problème pour lutter contre les érosions. Donc, analyser tout simplement les ruissellements et c'est fini, la solution sera trouvée.
Voilà, merci.
Donc, voilà ma contribution qui est la même.
Merci Jean, vous êtes à Kananga, au Kasaï occidental.
Parole aux auditeurs.
Le professeur, en écoutant les uns et les autres, moi je me rends compte que les actions sont tellement disparates qu'enfin, aucune action ne pourra être efficace et produire effet. D'un côté, les travaux se font, une entreprise gagne un marché, fait ce qu'il fait, quelque part il s'arrête parce que nous avons vu ça dans beaucoup de villes. D'un côté, on sensibilise les gens, on pense qu'il faut planter. D'un côté, on a tellement beaucoup d'actions, mais tellement qu'on y va d'une manière disparate, sans tellement des études, comme vous avez dit, et concertées, on risque enfin de se retrouver nulle part et le problème va être encore plus difficile à gérer si on n'y prend pas garde.
Oui, en effet, les actions de l'État sont des actions principales. Les actions des individus sont la pointe. Donc, il faut les situer correctement, à mon avis, en face de mon analyse.
En ce qui concerne les actions des individus, je suis d'accord tout à fait avec ce que tu as dit, celui de Serge. Il faudrait aussi, j'ai constaté par exemple à Kindele, dans le quartier de l'université de Kinshasa, on peut creuser aussi dans sa parcelle un puits qui absorbe de l'eau. Mais pour un spécialiste, pour un chercheur dans le domaine, ce sont des méthodes qu'il faut toujours conseiller avec prudence. Ça fonctionne à ce niveau-là parce que la nappe souterraine est loin en dessous du fond du puits. À ce moment-là, l'eau entre dans le puits et est absorbée. À supposer que la nappe souterraine, la nappe d'eau souterraine, soit tout près de la surface, l'eau va entrer dans le puits, va rencontrer la nappe, et le puits va commencer à se remplir, et puis après l'eau va déborder. Donc, mettre un puits dans chaque parcelle pour collecter l'eau qui tombe dans sa parcelle, c'est aussi une solution lorsqu'on est sur des collines où la nappe d'eau souterraine est en profondeur. Mais ce sont, comme j'ai dit, des mesures d'appoint, ce n'est pas de mesures réelles, vraiment pour résoudre les érosions. Parmi les mesures réelles pour résoudre les érosions, je propose, comme l'avait pensé la ministre de l'Environnement de la Ville, c'est-à-dire commencer les érosions par des têtes d'érosion, quand ça n'a pas encore formé un grand ravin.
Et c'est là qu'il faudrait commencer par
ça. Voilà. En coup, nous avons vu qu'une tête qui a une longueur d'environ 100 à 200 mètres, une largeur d'environ une dizaine de mètres, ça va coûter autour de 100-200 000 dollars.
Et quand c'est déjà un grand ravin,
moi j'ai dit par exemple qu'il y a une délai, quand c'était déjà un grand ravin, on a fait une partie à 7 millions de dollars.
Et là, si on en a comme ça 10 dans une ville, c'est un problème très sérieux.
Bon, d'abord, je suis heureux d'apprendre que Terviren finance, mais il ne faut pas attendre que Terviren y mette des gros moyens. Je sais au moins que les grands financiers comme la Banque mondiale et les autres se sont déjà respirés des érosions parce qu'ils comprennent que ça gouffre sans fond. Donc, ils se retirent déjà. Alors, ce qui m'étonne est que les bailleurs de fonds se retirent. Pourquoi l'autorité s'entête à l'ouvrir à des endroits qu'il ne faut pas, alors qu'il n'a pas de moyens? Pourquoi l'autorité s'entête à utiliser les mêmes méthodes qui ont échoué? Parce que quand l'eau entre dans un caniveau mal calculé, le caniveau sous pression va casser. Ou à cause de la vitesse, il suffit que la vitesse dépasse 3 ou 4 mètres par seconde pour que le béton commence à s'éroder. Donc, les études n'étant pas faites parce que c'est dans notre culture, quand on est pressé, on veut passer directement aux travaux, c'est une perte d'argent parce que vous allez jeter l'argent par la fenêtre. Maintenant, pour vraiment résumer,
les auditeurs, si vous allez conclure, est-ce que vous permettre que les derniers études des nouveaux auditeurs s'expriment? Bon, je crois qu'il y a eu beaucoup d'auditeurs des Canada aujourd'hui, mais c'est un peu sérieux, les érosions au Canada. On lui donne la parole, il termine et puis vous allez conclure. Victor, vous êtes en ligne?
Oui, je disais ceci.
Vous avez dit que 1 minute et demie, Victor, parce que vous êtes les derniers auditeurs. Allez-y, on vous écoute.
À Kananga, nous vivons une situation très compliquée parce que Kananga n'était pas habitué à ce genre d'histoire. Mais du moment où je vous parle, Kananga est entouré des érosions et moi j'appelle accident de la route. C'est terrible presque dans toutes les communes, les 5 communes de Kananga, il n'y a que des érosions. Il y a des érosions qui ont aussi des maisons de la population. Donc, c'est catastrophique.
Voilà. Victor, si on peut évoluer, on a fait le constat depuis le début de l'émission, en une minute. Mais aujourd'hui, par exemple, quels sont les chantiers qui sont ouverts à Kananga où on est en train de faire les travaux pour arrêter ces érosions, par exemple, que ce soit l'IFP, à la prison, à l'hôpital général et partout ailleurs? Voilà, on l'a perdu. Lisons aussi rapidement Malak au café de Kananga 10 ici. Nous signalons que les érosions se portent très bien, que ce soit à Tikapa, à Kananga, à Luisa. Et d'ailleurs, Tikapa va bientôt être. Tikapa va bientôt est inaccessible hein, entre Dibumba et Kielé, parce que l'accès à l'aéroport aussi est menacé par une grande érosion. Mais il propose vraiment que les érosions soient considérées dans les 5 sentiers, au lieu de s'intéresser seulement aux routes porteurs. On vous donne la parole pour conclure. Vous étiez en train de présenter efficacement ce qu'il faut faire pour sauver les villes de cette situation.
C'est-à-dire, les gens de Kananga, comme j'ai fait mes études, une partie de mes études secondaires à Kapoubé, mm-hmm. dans cette ville que je connais pendant ma jeunesse, c'est Sampour, quand j'ai vu un collègue député qui m'a demandé, à mes frères, je vous amène à Kananga pour que vous voyez, pour résoudre le problème. Je pense que ça, c'est pas normal qu'un député puisse commencer à vouloir lutter contre les érosions, parce que la population paye les impôts pour. Donc, c'est l'État qui doit résoudre ce problème. Mmh. Alors, l'État va le résoudre comment? Moi, je pense qu'il faut nécessairement, même si ce n'est pas dans notre culture, qu'il y ait des plans que les villes soient étudiées. Vous avez vu, par exemple, en Asie, la boue qui coule dans un village et qui noie tous les habitants en la boue. Vous avez vu ça sur les télévisions. Dans la partie est, la coulée boueuse est possible. Le glissement de terrain est possible. Les érosions dans la cuvette centrale, parce que la cuvette centrale qui est à peu près deux tiers de la surface de notre pays est sableuse. Donc les érosions sont possibles dans la cuvette centrale.
Mais il n'y a pas des études sérieuses.
Alors donc, à mon avis, toutes les villes devraient avoir leur carte de jour technique, à la base desquelles on lotit. Et le prix aussi devrait varier. Si on vous donne un terrain dangereux, vous ne payez pas autant que celui à qui on a donné un terrain qui n'est pas dangereux. Donc, ces cartes doivent exister. Maintenant, quand les érosions commencent, je pense qu'il faudrait commencer par les têtes d'érosion, parce qu'à ce moment-là, vous avez $1 million, vous les mettez sur 10 têtes et vous arrêtez pour de bon. Tandis que attendre que ça se crève et que là, on est à Kindele à 5 millions, et je crois que ça ne va même pas suffire.
Voilà.
Donc, ensuite, il faudrait utiliser des méthodes nouvelles qui existent, qui sont utilisées dans le monde. Pourquoi utiliser les méthodes qui ont échoué ailleurs et continuer à les utiliser?
Voilà. Merci, docteur Mosti, professeur Kasson Gonombi. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes spécialiste de l'hydrologie et hydrogéologie. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu au studio de Radio Capi pour partager ce sujet avec les auditeurs de Radio Capi, à qui nous disons sincèrement merci. Mais n'oubliez pas que Parole aux auditeurs, vous retrouvez le lundi, ça sera le 18 octobre prochain. Nous allons parler de la faim. Parce que vous savez que la RDC est parmi les 25, c'est la liste des 25 pays où la faim atteint des propres alarmante. C'est un rapport de l'Institut international de la recherche sur les politiques alimentaires. Nous allons en parler avec vous parce que la faim menace la population congolaise. Deux questions pour l'émission de lundi. Comment réagissez-vous face à ces rapports et qu'est-ce que vous proposez pour sortir de cette situation? Soyez nombreux à réagir à pa@radiotapi.net. Merci à toute l'équipe et il me reste à vous souhaiter un bon week-end en compagnie de Radio Tapi.